C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
C'est quoi?
C'est quoi? Hier, un vaisseau de la NASA s'est volontairement écrasé contre un astéroïde. Un test pour voir s'il était possible de dévier un astéroïde, de sa trajectoire. Comment ça s'est passé? On en jase avec Guillaume Poulain, animateur à l'Astrolab du Mont Mégantique. Bon matin, Guillaume.
Bonjour.
Allez. Merci. Guillaume, je viens de résumer très brièvement ce qu'on appelle la mission DART. C'est quoi exactement cette mission-là?
Ben, en gros, c'est une mission de défense planétaire. C'est-à-dire que l'idée ici, c'était pas d'aller étudier un astéroïde, comprendre sa composition, mais vraiment savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on pourrait dans le futur dévier un astéroïde qui foncerait vers la Terre en l'impactant, en fonçant dessus avec un ou plusieurs vaisseaux.
OK. Est-ce que la mission a été un succès finalement, Guillaume?
Ben, jusqu'à présent, oui, parce que hier soir, autour de 19h14, en direct, moi j'étais à la maison, puis on avait les images en direct de la sonde,
okay.
Et on a vu l'astéroïde grossir dans l'image, grossir, éventuellement on a perdu le contact, donc on a confirmé que la sonde DART a frappé le petit astéroïde Dimorphos. Donc c'est un astéroïde d'à peu près 170 mètres,
okay.
Ce qui est quand même un bon morceau.
Une bonne roche, oui.
Oui, oui. À peu près 5 millions de tonnes. Et ce petit astéroïde-là, ben, il est en orbite autour d'un plus gros astéroïde d'à peu près 780 mètres. Mm. Donc tout ça, c'était voulu parce que, un, c'est plus facile de dévier un petit astéroïde. Mais deux, c'est qu'on veut après ça savoir est-ce qu'on a réussi ou non à dévier. Puis ça va être super important d'avoir deux astéroïdes pour mesurer le temps que prend le petit à faire une orbite.
Guillaume, je me posais la question hier, est-ce que ça peut engendrer ce qu'on appelle l'effet papillon? Genre, y a-t-il des risques que ça ait chamboulé l'univers au complet puis que là, on se soit mis en danger puis qu'un astéroïde qui va dévier vers nous?
Ouais.
Ah ben c'est une excellente question et sachez que les gens qui travaillent sur cette mission-là ont pensé à tout ça parce qu'effectivement, dès qu'on agit sur la trajectoire d'un astéroïde, ben on pense tout de suite au risque qu'on empire les choses et qu'on on le dirige vers nous. Donc l'astéroïde en question, il a été choisi pour plusieurs raisons et une des raisons, ben c'est que il n'y a pas de risque de collision dans le futur. Donc on sait que pour les 100 prochaines années au moins, cet astéroïde-là passe pas trop proche de la Terre. Et en impactant la Lune qui tourne autour du gros astéroïde, ben on est sûr qu'on dévie pas la trajectoire du système au complet. Puis faut quand même se rappeler aussi que ce qu'on envoyait, c'est un vaisseau d'à peu près 500 kilos sur un objet de 5 millions de tonnes.
Donc l'impact va être vraiment
minime.
Okay,
en fait, ce qui va être extraordinaire, c'est de penser qu'on va être possiblement capable de mesurer des changements dans sa trajectoire.
Okay. Mais là, on est correct avec cet astéroïde-là, mais les autres, là, puis les comètes, c'est-tu vraiment un danger pour la Terre?
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est un danger. Le truc, c'est que les probabilités qu'on soit prochainement frappé par un gros astéroïde ou une comète, ces probabilités-là sont quand même relativement faibles. Par contre, les conséquences, elles, seraient super graves.
Ah, qu'est-ce que c'est?
Parlez-en dinosaures, hein, ils sont plus là aujourd'hui. C'est un astéroïde d'à peu près 10 km qui a frappé la Terre il y a 66 millions d'années, puis qui a rayé de la surface de la planète 75% des espèces vivantes. Donc, tout ça pour un caillou de 10 km.
Ben oui, c'est ça.
Ça n'a pas besoin d'être aussi gros que ça. Juste pour vous donner une idée, l'astéroïde qu'on a frappé hier, je vous disais, hein, il faisait à peu près 170 mètres.
Ouais.
Mais si un objet comme ça tombe sur Montréal.
C'est ça, j'allais te demander, qu'est-ce qui se serait passé?
Ben, il y a différents outils en ligne là, pour calculer ça, des universitaires là, qui ont fait développer des modèles. J'ai fait le calcul hier, puis pour l'astéroïde Dimorphos, s'il était tombé sur Montréal, ben en gros, l'énergie libérée sur Montréal, ça serait à peu près l'équivalent de 10 bombes atomiques.
Donc, il
y aurait un cratère de 3-4 kilomètres environ qui serait formé.
Il y en a déjà un, mais
il y aurait un
Baie-Saint-Paul.
Non, mais il y aurait un genre de deuxième Baie-Saint-Paul, là, si on veut.
Plus petit que ça, par contre. Baie-Saint-Paul, c'est quand même beaucoup plus vaste, donc ça a été fait par un objet beaucoup plus massif.
Okay.
Mais il reste quand même que, disons, dans une société avancée comme la nôtre, dans une région densément peuplée comme Montréal, ça serait absolument catastrophique. Là. Donc, c'est là toute l'importance du test qu'on a fait hier. Ce que les dinosaures avaient pas, eux, c'est des télescopes puis des vaisseaux spatiaux. Nous, on a ça, donc on va peut-être, dans le futur, être capable de sauver l'humanité ou une région en allant frapper un astéroïde.
Mais Guillaume, quand est-ce qu'on va le savoir si ce qu'on a fait hier, ben ce qu'on a fait, ça m'exclut, là, mais si ça a marché, on peut le mesurer quand, ça?
Ben, on va avoir probablement aujourd'hui ou dans les prochains jours des images d'un tout petit satellite qui a été largué par la sonde DART quelques jours avant l'impact. Et là, on devrait avoir des images de près de l'impact, du cratère. Ça risque d'être très spectaculaire. Mais ultimement, les vrais calculs vont se faire dans les prochains mois à partir de données prises par des télescopes sur Terre. Donc, on va l'astéroïde Dimorphos, il tourne autour du plus gros et ça lui prend environ 12 heures à faire une orbite. Et ce qu'on s'attend, c'est que cette orbite-là, la durée de l'orbite va probablement changer de l'ordre d'une minute au moins. Et donc, il va falloir tout simplement avoir une horloge et mesurer combien de temps ça prend. Donc, de là, on va mesurer, on va déterminer le succès de l'impact. Parce que la grosse question, c'est est-ce que c'est une collision solide, un peu comme lorsque deux billes de billard se frappent, où toute l'énergie est transférée, ou si c'est pas plutôt comme lorsqu'on envoie un projectile dans un coussin, par exemple.
Est-ce qu'on l'a frappé
dans
le mou?
Une bonne partie qui est absorbée.
Ouais, c'est ça.
Ouais. C'est malade. Merci.
Guillaume, merci d'avoir pris du temps pour nous. Guillaume Poulain de l'Astrolabe de Mont-Mégantic. Et on se reparle une prochaine fois avec plaisir. Salut, Guillaume.
Bonne journée.
Merci infiniment.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Faut faire la bascule. Le 27 septembre 1922 naissait la radio à Montréal. Ça fait 100 ans aujourd'hui que pour la première fois on a diffusé. Donc c'est CKAC qui veut dire Canada Kilocycle Amérique Canada. CKAC à la fréquence 730 AM qui fut inaugurée. Officiellement le 2 octobre, mais la première diffusion ça a été aujourd'hui le 27 septembre et c'était une antenne de 30 mètres sur le toit de l'édifice de la presse qui permettait cette diffusion là à 2000 postes de radio récepteurs à Montréal à ce moment-là.
Et pourtant, c'est pas la seule radio qui émettait à cette époque-là.
Ah non, ben pourtant.
Non, il y en a une autre.
Ah oui?
Et j'ai même un extrait.
Ah bon?
Ah oui? Radio-là.
27 septembre 1922. Vous syntonisez la radio 969 AM de Levons-nous les saltimbanques. Avec le père Martin Clouteau. Excusez, je viens d'allumer une cigarette. Les cigarettes Lucky Strike. Une bonne façon de commencer votre journée. Ce bulletin d'information vous parle du joueur de hockey Aurel Joliat qui a été repêché par les Canadiens de Montréal. Maintenant, la question que tout le monde se pose, y a-t-il trop de Québécois dans l'équipe? Le gouvernement Taschereau annonce la construction d'une route entre Lévis et Sorel. Même si ça crée une petite controverse du maire de Québec qui a dit non au premier lien. La commission des liqueurs créée en 1921 déclare cette année un bénéfice de 4 millions de dollars. Merci à tous ceux qui boivent au travail. Première utilisation de l'insuline sur un patient de 14 ans du nom de Leonard Thompson. Premier diabétique à être traité avec succès. Dommage, l'exorcisme aurait fait le travail. La chaîne de magasins canadienne Tailleur débute ses activités. Allez-y pour l'ouverture, c'est plein, plein, plein de commis pour vous aider. À la météo, il va mouiller, les vaches sont couchées. La météo, une présentation des horloges grand-père de l'abbé Dutson. Pour Noël, offrez-lui une horloge grand-père de l'abbé Dutson. Elle saura toujours quand c'est l'heure de faire le ménage. Oui, une bonne épouse, c'est comme les nouveaux réfrigérateurs.
Oh non.
Elles se doivent d'être blanches, froides et près du fourneau.
C'est n'importe quoi. Hey, ça me fait mal en dedans.
Ne manquez pas le concours biblique Dans ta foi, Cloutier. Hier, Madame Hortense Lebrun s'est mérité un jambon.
Un jambon contre un jambon. Merci beaucoup.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
C'est la dernière fois qu'on lui parle avant les élections de lundi prochain. Philippe Léger, expert en politique et pas pire expert en sondage. Philippe, salut.
Bonjour, Martin.
Salut. Écoute, Léger vient de sortir un sondage ce matin et ça confirme ce qu'on pensait. Les intentions de vote bougent encore.
Écoute, si on regarde entre le premier sondage en août dernier, donc le premier sondage au début de la campagne électorale et aujourd'hui, donc environ une vingtaine de jours, il y a deux mouvements clairs dans la population. Le premier mouvement, c'est le Parti québécois qui a gagné 6 points de pourcentage, passé de 9 à 15 % et il y a encore ce qu'on pourrait appeler du vote en attente, c'est-à-dire qu'il y a encore du vote
potentiel de gain.
Potentiel de gain pour Paul Saint-Pierre Plamondon, alias PSPP. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour lui ce matin. Sa montée continue. Et en politique, là, le Parti québécois est à 9-10 depuis un an, deux ans. Et là, ça arrive, sa montée arrive une semaine avant le vote. C'est juste le moment que ça arrive, une montée. Et quand ça monte, souvent, ça peut monter longtemps. Mm-hmm. Vous vous souvenez, on fait tout en référence à la vague orange en 2011.
Ouais.
Ça avait monté.
Le NPD au fédéral.
Le NPD à l'élection fédérale de 2011. Ça avait monté, mais la question, c'est à quel point ça monte? Là, c'est la question pour le Parti québécois. Est-ce que ça va continuer à monter?
Est-ce qu'il va y manquer une semaine?
C'est ça que j'allais dire. Parce que pour la Coalition Avenir Québec, qui a perdu, lui, 6 points aussi depuis le début de l'élection, 9 points depuis mai dernier.
Il veut que ça arrête.
Il veut que ça arrête. Lui, il se dit, le 3 octobre, c'est quand? Parce que si c'était le 10 octobre, l'élection, lui, il disait, comment ça... J'en pas bien, là. Fait que, ouais.
À une semaine, le photo finish est-tu facile à voir?
Oui.
Oui?
À une semaine, le photo finish demeure facile à
voir.
Qu'est-ce
que tu vois?
La Coalition Avenir Québec, elle est encore très, très en avance, avec 37 % des intentions de vote. Une petite baisse pour la CAQ, mais elle reste tellement en avance parce que les quatre autres oppositions sont quand même très, très basses, sont en bas de 17 % Il y a Québec solidaire à 17, le Parti libéral à 16, le PCQ à 15 et le Parti québécois à 15 aussi. Donc, étant donné que la CAQ est tellement haute dans les sondages, ce qui fait que oui, ça risque d'être un gouvernement... Moi, je veux pas faire de prédiction, là, mais ça risque probablement peut-être d'être un gouvernement...
On l'a juste quand même.
C'est ça.
Le 4...
La tendance se maintient.
Non, c'est ça, mais voilà, c'est sûr que la CAQ... Parce que quand on regarde dans les différentes régions, si on regarde dans toutes les régions du Québec, la CAQ risque de gagner des sièges et est en avance. Dans les régions Lanaudière, Laurentides, en Mauricie, par exemple, est tellement loin en avant que finalement, même s'il y a quatre oppositions, même si la CAQ perd encore quelques points, si on le traduit en termes de sièges, non en termes de pourcentage d'intention de vote, comme qu'on peut voir dans le sondage ce matin, si on le traduit en termes de sièges, l'avance de la CAQ demeure extrêmement élevée parce qu'elle est en avance partout au Québec.
Là, hier, il y a une candidate de Québec solidaire qui s'est retirée de la course parce que elle a été filmée en train de retirer des dépliants du PQ, de PSPP, dans la boîte aux lettres d'un électeur. À quel point ça peut avoir un impact dans la campagne à ce stade-ci?
C'est une très bonne question. C'est difficile. C'est sûr que pour Québec solidaire, il a passé une très, très mauvaise journée hier.
Évidemment.
Gabriel Nadeau-Dubois, pour la petite histoire, était avec la mairesse Plante, parlait d'un pacte vert. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que les villes puissent s'adapter au changement climatique? Puis après ça, probablement son chef de cabinet, un conseiller, il va le voir, ça vient d'arriver. Il explique, puis là, lui fait « Oh, je sors de l'hôtel de ville par en arrière, on s'en va dans un war room, on décide ce qu'on fait. » Et là, finalement, elle a décidé de se retirer. Qui risque de gagner de cette décision-là? C'est Paul Saint-Pierre Plamondon.
C'est son comté.
C'est son comté à lui. Et plusieurs s'inquiétaient du fait que peut-être PSPP n'allait pas être élu. Il était dans une circonscription plutôt difficile à aller chercher pour le Parti québécois. Là, il est par Québec solidaire. Et quand on regarde dans les sondages, le deuxième choix des gens qui votent Québec solidaire, c'est majoritairement le Parti québécois.
Oui, puis en plus, dans le sondage, justement, c'est le chef qui semble faire une campagne réussie de plus, selon les
tous les indicateurs montrent que PSPP mène une bonne campagne, que les gens l'aiment. C'est comme si on l'a découvert un peu pendant la campagne électorale. Mais il reste quand même à 15 %. Il faut quand même se calmer.
Et dans quelques instants, je voulais savoir si, selon toi, là, les chefs peuvent inverser la tendance ou si tout est joué. C'est quoi la stratégie à adopter là?
Le podcast Debout les comiques.
C'est avec Philippe Léger. C'est la dernière fois qu'on lui jase avant l'élection générale de lundi prochain. Élection provinciale, Philippe. Billy, t'as lancé une question avant d'aller à la pause.
Je voulais savoir comment on joue les derniers jours pour les chefs de parti. Là.
On essaie de se trouver le dernier message de la campagne électorale. Savoir qu'est-ce qui se dit dans la tête des électeurs. C'est quoi le bruit ambiant de la campagne électorale? Mm-hmm. Par exemple, je donne un exemple. PSPP, à Tout le monde en parle, l'a dit, quand les cinq chefs étaient interviewés par Guillaume Lepage, à Tout le monde en parle, il a dit, moi, je veux être une opposition constructive. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire en disant ça? C'est pas dire, votez pas pour moi ou je ne vais pas être au gouvernement. Ce qu'il veut dire, c'est, regardez là, vous voulez quelque chose de constructif, vous voulez une opposition à François Legault. Le bruit ambiant, c'est quoi? Les Québécois veulent un gouvernement de la CAQ, mais avec une opposition forte en même temps. Mm-hmm. Fait que lui, il reprend ça, il met un message. Regardez, je veux être une opposition constructive. C'est un peu ce genre de message-là. Chaque parti politique va essayer d'avoir son message personnalisé pour la campagne.
Hey, écoute, c'était le premier match du Canadien hier. On va te demander d'analyser la campagne avec des images de hockey, Philippe.
Okay.
Donc, c'est rapide, on en a plusieurs.
Avec qui, à qui tu donnes un 2 minutes pour rudesse?
François Legault. Il a été quand même l'équipe de la CAQ.
c'est quand il a traité...
Exact, mais ça, c'est une stratégie de fin de campagne, ouais. T'as mis. Hein? Regardez ce que fait François Legault. Il pointe un adversaire à Québec, le Parti conservateur du Québec, et un adversaire dans le reste du Québec, Québec solidaire, à gauche. Fait que lui, il se place entre les lignes, comme au centre, entre partis clairement à droite, ouais, du Parti conservateur, ah oui. Donald Trump, irresponsabilité, agitateur, c'est les mots de François Legault. Et de l'autre côté, les gens de solidaire, ben, la taxe orange, au pays des merveilles. C'est ça l'habileté de la CAQ en termes de communication, se placer au centre.
Meilleure équipe en offensive.
Moi, je pense que c'est Québec solidaire. En termes d'offensive, là, pour réussir à placer ses messages, notamment sur les questions climatiques, GND, il est très, très bon. On dirait qu'il est taillé sur mesure. C'est comme s'il est né pour faire une campagne électorale, cet homme-là.
Ah,
mais bon, on dit ça. Québec solidaire demeure à 17 %. Il est rendu deuxième dans les intentions de vote. C'est une demi-bonne nouvelle parce qu'il ne se détache pas de ses adversaires. Mais c'est quand même lui, en pourcentage, qui est l'opposition à François Legault.
Puis qui serait la meilleure équipe en défensive?
Ça, c'est une bonne question. Peut-être, je dirais encore François Legault et la Coalition du Québec. Hein? Regardez, là, on a commencé la campagne électorale. Il était à quoi? 41, 42 %. 4 partis chaque jour t'attaquent. essaye de trouver en toi des faiblesses. Essaye de trouver en toi, disons, des poux. Mm. Et il réussit quand même à être teflon, là, à être à 37, 38 %. Tout indiquait que cette campagne électorale, cette campagne électorale-là, la CAQ allait descendre. La question, c'était à quel point elle allait descendre. Là, sa descente, elle glisse, mais c'est une descente contrôlée au glissade d'eau.
Il est défensif.
Je sais pas c'est quoi une descente contrôlée au glissade d'eau, mais comprenez l'image.
Tu te squeezes. Y a-t-il une équipe qui a scoré dans son propre but?
Hier, Québec solidaire. J'irais deux équipes. La candidate Marie-Ève Rancourt dans Bourget qui a volé le dépliant. Et deuxièmement, le Parti conservateur Éric Duhaime avec toute l'histoire de taxes.
Ouais.
On pense que c'est des fois histoire anodine, ça fait longtemps, là. Quand on regarde les différents indicateurs, quand on regarde les différents sondages, Éric Duhaime a arrêté de monter à ce moment-là. C'est comme si le momentum s'est arrêté, puis ça s'est arrêté à 15 %.
En terminant, quel chef va retirer son chandail à la fin de la campagne, tu penses?
Ça, c'est une prédiction, t'as mis. Bon, regardez, je vais être prudent.
Oui.
Dominique Anglade et le Parti libéral du Québec, c'est sûr que si elle perd des sièges, c'est plutôt difficile de rester, notamment dans sa propre circonscription.
Ils peuvent pas être satisfaits.
Ils peuvent pas être satisfaits.
C'est impossible.
C'est impossible parce que le Parti libéral, pourquoi? C'est un parti de pouvoir.
Voilà.
S'ils remportent pas le pouvoir, ils sont pas satisfaits. S'ils perdent des sièges par rapport à l'élection de 2018, ils sont encore plus insatisfaits. Et si Dominique Anglade perd dans sa circonscription, ils sont encore plus insatisfaits.
Ouais.
Ben, écoute, reste attentif. S'il arrive quelque chose d'ici l'élection, on va se reparler, Philippe. Ouais. Sinon, on se reparle la semaine prochaine au lendemain de l'élection ou la journée, le lendemain de l'élection.
Ouais.
On va faire ça mardi prochain. On te garde avec nous comme collaborateur politique. Philippe Léger ici au 96.9, c'est quoi? Merci.
Le podcast Debout les comiques.
C'est l'histoire, ce qui se passe en Caroline du Sud, aux États-Unis, évidemment. Et c'est un enfant de 3 ans qui est dans la maison avec sa maman.
Mm-hmm.
Et les policiers ont été appelés parce qu'ils ont reçu à 7h45 un appel concernant une fusillade. Ils se rendent là-bas et ce qu'ils découvrent, c'est une femme qui s'appelle Carolyn Bush. Elle a 33 ans. Elle est avec son enfant de 3 ans, la grand-mère maternelle de cet enfant-là. Puis lui... Il a eu accès à une arme à feu non sécurisée.
Un revolver.
Un petit gars de 3 ans. Et il a tiré sa mère. Et elle est décédée.
Par accident, on le devine. Là,
bien évidemment.
Oui. Manipulation, ces petites mains qui ne savent pas comment ça marche et qu'est-ce que ça fait.
T'sais? On regardait, monsieur juge et moi, les nouvelles des derniers mois, dernières années. Puis il y a aussi une petite fille de 2 ans qui a tué son parent dans un Walmart parce qu'il a pris l'arme à feu dans sa camin.
C'est ça que j'allais raconter. Je me suis dit, ça a marqué mon imaginaire.
Exactement. On dirait que moi, ce genre d'histoire-là, à chaque fois que je vois ça, non seulement je trouve que c'est une tragédie, mais je me demande à quel point ça n'a pas de bon sens que les guns soient non sécurisés, ben, soient dans le sac à main.
Aux États-Unis, tu le sais, ton père, il vit, là. C'est vraiment au vu et au su de tout dans certains États, même.
Oui, je sais bien.
Ça arrive malheureusement souvent, même des enfants qui se tirent entre eux autres par accident, ben, oui, parce qu'ils ont mis la main sur l'arme du papa. Là.
Donc,
un petit frère qui tue son grand frère. On en a vu quelques-uns comme
je
ça.
Je pense que c'était devenu dans les principales causes de décès chez les enfants, les armes à feu aux États-Unis.
Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis tu vois, je me posais la question, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver ici au Canada? Monsieur le juge disait non. Je pense que
non, non plus. Mais Olivier est en ligne, il connaît ça plus que nous autres. Salut, Olivier.
Ben oui, bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien, Olivier. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver ici si on suit la loi, là?
Si on suit la loi, c'est pas supposé arriver ici parce que techniquement, t'es censé avoir une arme qui est premièrement barrée avec un loquet sur la gâchette qui fait que tu peux pas appuyer dessus. Elle est supposée être dans un case qui est barré aussi, techniquement.
Oui.
On s'entend. Puis tes balles sont supposées être dans un compartiment à part qui est barré lui aussi.
OK. Puis pas ensemble, donc, là, ils sont pas dans la même armoire,
non
plus.
Non, exactement. T'es pas supposé mettre ça dans la même pièce, dans la même armoire, dans le même sac.
Puis les armes de poing, on n'a pas le droit d'avoir ça, je pense, au Canada comme tel. C'est très difficile
d'armes
à avoir.
Oui, exactement, exactement. Il y a beaucoup de restrictions par rapport à ça. C'est légal, t'as le droit d'en avoir, mais là, à ce moment-là, il faut que t'aies passé un permis spécial, puis comme vous dites, là, il y a beaucoup plus de restrictions, puis c'est pas mal plus tough avoir un arme de poing que d'avoir un arme de chasse.
Puis le remisage est le même là, pour l'arme de poing, là, sur le loquet, sur le pontet où on met notre doigt pour la gâchette, là, ça, c'est bouché, cet endroit-là, là.
Oui, tout à fait. Même affaire sur les armes à feu de chasse, t'es supposé avoir ça aussi, arme de poing. Ici au Canada, on a des lois assez strictes par rapport à ça.
Est-ce que t'as des armes toi-même, Olivier?
Oui.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des accidents de manipulation? Tu comprends, là, un coup qui part contre ta volonté, même si tu connais ça?
Techniquement, non, parce que t'es pas supposé, tu sais, exemple, comme quand tu vas dans un champ de tir, ton arme est jamais supposée être chargée, sauf si elle est déposée sur le stand de tir. Donc,
okay.
La même chose quand on va chercher nos cibles pour voir comment qu'on a tiré. T'es obligé de décharger ton arme. Faut que t'enlèves toutes les balles. La personne en charge vient voir que toutes les armes sont déchargées avant qu'on puisse aller voir les cibles.
Hey, calvasse, okay, mais c'est rassurant d'entendre, Olivier. C'est rassurant d'entendre que ce soit aussi complexe puis sécuritaire. Merci, Olivier, de ton appel.
Ben, merci à vous.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.